Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
On a beaucoup parlé de François Mitterrand ce matin. Et si, à défaut de changer la vie, fallait-il se contenter de changer d'avenir alors que les nationalismes font leur retour en Europe, que la libre circulation pourrait être menacée par la remise en cause de Schengen, parce que le chômage est là et semble endémique en France, faut-il se hâter de quitter le pays ? Bonjour Guy Sorman.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, vous êtes également ancien conseiller d'Alain Juppé à Matignon. Vous publiez un livre « J'aurais voulu être français » ou comme l'indique le titre, vous expliquez comment vous êtes devenu non seulement New-Yorkais mais aussi Américain. Est-ce que d'après vous, il faut quitter la France ?
Je ne dirais pas qu'il faut quitter la France, c'est-à-dire je ne l'ai pas quittée. C'est-à-dire j'ai souhaité avoir une identité supplémentaire. C'est ma réponse au débat sur l'identité. C'est-à-dire que je crois tellement peu à cette notion d'identité que j'ai souhaité en avoir deux. Et j'essaye de montrer par mon témoignage personnel, et c'est une histoire qui n'engage que moi, hein, que non seulement on peut être français, on peut être français et américain, et que je ne vois pas de contradiction entre les deux, c'est plutôt un enrichissement. Enfin, je conjugue, c'est pas un verbe, mais identité au pluriel, et ce qui m'agace dans le débat sur l'identité, c'est que ce soit toujours au singulier.
Pourquoi ?
Bah parce que c'est extraordinairement réducteur. Enfin, nous sommes français, je suis américain, mais je suis d'état d'autre chose. Je suis fils d'immigrés juifs d'Europe centrale, je suis libéral, je suis père de famille, je suis athée, on peut multiplier. Nous sommes tous des millefeuilles. Et la volonté de certains de nous écraser, si vous voulez, à une identité unique, c'est un comportement de policier. Donc moi, je ne supporte pas l'autorité, hein, le pouvoir, enfin tout mon bouquin, c'est une sorte de résistance au pouvoir. Donc je sens bien que par-delà l'identité, on sert à écraser la personnalité et la richesse des Français.
Alors on va reprendre les raisons pour lesquelles on pourrait décider de quitter la France. Vous avez dit que vous étiez libéral et c'est ainsi effectivement notamment que les Français vous connaissent. On va revenir par exemple sur le sauvetage d'Alstom par l'État.
70 millions d'euros sont rassemblés pour préparer l'avenir du site de Belfort. Alstom et l'État consacreront 30 millions d'euros pour le développement du TGV du futur. Alstom, Monsieur Poupart l'évoquera, débloquera 30 millions d'euros pour développer et industrialiser une nouvelle plateforme de locomotives de manœuvre. Les 5 millions d'euros que j'évoquais tout à l'heure sur la montée en puissance de la maintenance et également l'affirmation avec 5 millions d'euros de la production de nouveaux types de véhicules sur le site de Belfort.
C'est la voix d'Arnaud Montebourg, vous l'avez reconnu, Guy Sorman. On a appris donc que l'État allait acheter des TGV à Alstom, probablement faire en sorte que ces TGV circulent sur des voies classiques. Votre avis sur ce drôle de capitalisme français ?
Oh, c'est très profond, c'est-à-dire que nous sommes, en règle générale, en tout cas les élites politiques, tout parti confondu, sont fâchés avec l'économie. Et par conséquent, nous n'admettons pas le principe dynamique et moteur de l'économie, c'est-à-dire que on arrête ce qui ne marche pas et on le remplace par quelque chose qui marche mieux. C'est-à-dire, si on appliquait le principe Alstom à deux chevaux, on roulerait toujours en deux chevaux. Bon, pardon d'être un peu cuistre, mais en économie, le mot clé, c'est ce qu'on appelle la destruction créative, c'est-à-dire qu'on détruit pour faire du neuf. Et ne pas vouloir comprendre cela et s'acharner à produire du matériel qui n'a plus aucune utilité, c'est la principale cause de la stagnation et du chômage. Donc, deux réflexions. Premièrement, l'économie est quelque chose que les Français n'aiment pas et ne comprennent pas. Et la seconde observation qui me laisse alors pantois, c'est qu'il n'y a pas un leader politique parmi les candidats au présidentiel qui ont dit la vérité, alors que certains d'entre eux connaissent la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'il faudrait reformer le personnel d'Alstom pour qu'ils fassent autre chose de plus intéressant et qu'ils aient une vie plus intéressante.
Mais Alstom va bien.
Ben écoutez, si Alstom, c'est pas Alstom en soi, ce sont certaines lignes de production chez Alstom qui ne vont pas. Donc le gouvernement devrait encourager Alstom à faire des choses qui marchent plutôt que des choses qui ne marchent pas.
On a l'impression, Guy Sorman, que la destruction créatrice, donc le concept de l'économiste, oui, Schumpeter, est quelque chose qui n'a fonctionné qu'à moitié en France. C'est-à-dire qu'on a vu la destruction, on n'a pas beaucoup vu la création. C'est pas votre sensation ?
C'est-à-dire quand vous figez les choses, c'est-à-dire que chacun s'accroche, que ce soit les capitalistes, les banquiers, les investisseurs ou les travailleurs, on s'accroche à ce que l'on connaît. Donc on a une peur folle de l'innovation. Et la création ne marche pas. Alors ça, c'est quand même très liée au code du travail, pardon, qui est tout de même l'obstacle essentiel au dynamisme de l'économie française, qui fait en sorte qu'il est extraordinairement difficile de changer de métier.
Vous avez par exemple travaillé aux côtés d'Alain Juppé, vous avez dit d'ailleurs que vous le soutiendriez à la primaire de la droite. Est-ce que vous avez la sensation que la droite française pourrait par exemple tirer profit de ce que vous venez de dire? Puisque finalement, s'il y a vraiment un problème de rigidité du marché de l'emploi, pourquoi la droite ne s'y est-elle pas attaquée?
Bon, très rapidement, la notion de droite-gauche ne me satisfait plus parce que je crois qu'elle ne correspond plus du tout aux problèmes actuels. Bon. La distinction véritable, c'est société ouverte, société fermée. C'est-à-dire que vous avez à droite et à gauche, Mélenchon, Sarkozy, Le Pen sont clairement des partisans de la société fermée. C'est-à-dire qu'on verrouille les frontières, on verrouille l'économie, on reste entre nous, on continue à produire, des deux chevaux et tout ce qui va avec. Bon. Et puis les partisans de la société ouverte, alors là je mettrais Juppé, Macron, etc., qui tout de même, ouverture des frontières et acceptation de l'innovation.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que dans votre autre chez-vous, votre demi-chez-vous, les États-Unis, puisque vous expliquez dans votre...
J'ai deux chez moi et on a le droit. Légalement, on a le droit.
Vous déniez pas, j'indique juste à nos auditeurs que vous avez deux chez vous. Dans cet autre chez vous, il y a un homme, au moins, qui semble être tout à fait partisan de ce que vous appelez la société fermée. Il s'appelle Donald Trump.
When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States.
Je traduis, quand je serai élu, dit Donald Trump, je suspendrai l'immigration en provenance des régions du monde ayant un passé avéré de terrorisme contre les États-Unis, l'Europe ou nos alliés, jusqu'à ce que l'on comprenne pleinement comment mettre fin à ces menaces. Alors vous n'êtes pas menacé, Guy Sorman, puisque vous avez aujourd'hui la citoyenneté américaine.
Dieu merci, j'ai un passeport.
Voilà, mais comment expliquer que cet homme ait aujourd'hui tant de succès dans une société qui est a priori une société ouverte, selon votre catégorie. Comment l'expliquer?
Alors, il faut l'expliquer avec des lunettes américaines. Il ne faut pas l'expliquer à partir de la France. Je crois que Trump chevauche sur deux traditions qui sont typiquement américaines. La première qu'on appelle le nativisme, qui est quelque chose qui revient constamment dans l'histoire des États-Unis, à savoir que l'Amérique authentique, elle est blanche et chrétienne. C'est leur xénophobie à eux. Les Américains ne sont pas mieux que les Français à cet égard. Ils fonctionnent sur le même modèle. Mais le nativisme est un courant continu aux États-Unis, alors qu'en France, la xénophobie, c'est plutôt par période. La fin du 19e siècle, avec Maurras, les débuts de Barrès, Drummond, et puis les années 30, et puis troisième phase aujourd'hui. Mais c'est courant continu. Donc, il change là-dessus. Et puis, il y a un deuxième élément qui favorise Trump, c'est que les Américains ont une haine, une grande partie d'entre eux, une haine profonde de l'État. Et par conséquent, mettre un clown à la tête de l'État ne les gêne pas parce que l'État est tellement haïssable et ridicule que, allons jusqu'au bout du raisonnement...
Vous pensez qu'ils assument une sorte de vote ironique?
Ah, pour certains, oui. C'est argumenté. Enfin, si je lis les éditoriaux, les chroniques d'un certain nombre d'intellectuels à qui je dis, écoutez, franchement, mes amis, c'est un clown. Le type est instable, pas normal. Ils disent, tant mieux. Cela va dynamiter le système. Donc, la haine de l'État l'emporte sur toute autre considération. Ça, c'est un facteur tout à fait décisif dans la popularité de Trump.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre interprétation du phénomène Donald Trump? Est-ce que la société ouverte, celle que vous appelez de vos voeux, celle que le philosophe Karl Popper, qui est l'un des penseurs du libéralisme au XXe siècle, considérait comme étant indispensable, est-ce que cette société-là, finalement, sur l'ensemble de la planète, elle n'est pas en train de devenir complètement impopulaire? Je ne veux pas vous faire de peine, mais bizarrement, il y a un sec, les Français n'aiment pas le libéralisme, mais peut-être qu'ailleurs aussi, on ne l'aime pas.
Écoutez, depuis, vous savez, le libéralisme est un combat. C'est-à-dire que, moi, ma position, la pensée libérale est modeste. Quand je dis ça, les gens sursautent. Mais c'est-à-dire que les libéraux ne prétendent pas interpréter 100% de la réalité. Bon, les libéraux, je simplifie, moi j'aime pas, c'est pour aller très vite, les libéraux, c'est pas dire grand-chose, mais les libéraux, c'est-à-dire ceux qui croient en la responsabilité personnelle, l'initiative, etc., disent, nous ne sommes pas toute la réalité, nous sommes la moitié peut-être de la réalité et on voudrait être reconnu comme tel. Alors on crie très fort pour qu'on soit reconnu comme tel. Mais nous admettons, en tout cas moi j'admets, qu'il existe une autre moitié de la société qui est enracinée, dans la nature humaine et que j'appelle quelquefois le sentiment tribal. Et donc toutes les sociétés sont partagées entre le sentiment d'accueil à l'autre et le sentiment tribal. Les Américains, à cet égard, ne sont pas très différents des Français. Donc je dis pas on gagne, on perd. Je dirais, comme en 68, le combat continue.
Alors, il y a une forme de libéralisme qui est un libéralisme conséquent, qui considère que les frontières doivent être ouvertes. C'est aujourd'hui quelque chose que vous considérez encore quand vous observez, par exemple, le phénomène des migrants. Est-ce que vous considérez que l'Europe, la France, devrait en accueillir plus qu'elle n'en accepte aujourd'hui, Guy Sorman?
Bah écoutez, moi je suis un moraliste, un idéaliste, et puis aussi le produit de l'histoire de ma famille. C'est-à-dire que comme mes parents de Russie, d'Allemagne ont été sans cesse chassés, ont fini par arriver en France, voulaient aller aux États-Unis.
Bon, chassés parce que juifs.
Chassés parce que juifs, et puis parce qu'il y avait des gens pas très sympathiques qui s'appelaient Hitler, Pétain, etc., qui pensaient que mes parents étaient différents. Et donc on opposait à mes parents les arguments qu'on oppose aujourd'hui aux réfugiés syriens. Vous n'êtes pas comme nous, vous n'avez pas la bonne religion, vous allez vous piquer nos emplois, nos femmes. Donc je suis prisonnier de cette histoire familiale, et je la vois se répéter. Et j'ai un devoir, je dirais, de fidélité vis-à-vis de l'histoire de ma famille, et un devoir d'empathie envers ceux qui sont les victimes de l'histoire présente. Donc, pour moi, l'empathie, la morale, l'emporte sur toute autre considération pratique. Et si on regarde les aspects pratiques, très franchement, on aurait quand même la possibilité d'accueillir 100, 200 000 réfugiés sans que ça bouleverse la société française.
Mais là aussi, il y a un autre discours en ce moment qui monte en Europe, qui n'est pas seulement d'ailleurs un discours de droite ou de droite extrême, qui est aussi un discours parfois tenu par certains penseurs dits de gauche, qui considèrent, Guy Sorman, que finalement, c'est l'intérêt du patronat d'avoir une main-d'œuvre à bon marché, et que donc c'est l'intérêt d'être immigrationniste, comme on dit.
Les bras m'en tombent. Enfin, moi, je connais par cœur ce genre de raisonnement, enfin, qui est le raisonnement marxiste un tout petit peu adapté. C'est-à-dire que...
Marx n'a jamais dit ça.
Par métaphore, c'est-à-dire qu'on voit là une sorte de sous-prolétariat qui va être exploité par les capitalistes. J'ai du mal à répondre parce que on oublie que l'économie est faite par tous. C'est-à-dire que un réfugié syrien qui vient en Europe, et on sait que la plupart des gens ont une éducation, artisans, etc., ils vont pas peser sur l'économie française. Ils vont enrichir l'économie française. On oublie que toute personne qui arrive est aussi un producteur. Donc il y a une telle... Et là, on retombe sur l'ignorance de l'économie. C'est-à-dire qu'en France, on pense que l'économie, c'est un gâteau de taille fixe et que par conséquent, tout nouvel arrivé va vous piquer un morceau du gâteau alors qu'il va agrandir le gâteau.
Et puis, on poursuit, en quelque sorte, dans le fil de votre libéralisme. En ce moment, en France, il y a une querelle, une controverse sur la laïcité, sur la manière de l'appliquer. Comment jugez-vous cette querelle, Guy Sorman?
Je crois que la laïcité, mais c'est pas nouveau, ça remonte, je dirais, à Robespierre. Enfin, c'est devenu une religion de substitution. C'est-à-dire que, moi, ma thèse, comme ça, elle est partagée par Emmanuel Leroy Ladurie et d'autres historiens, c'est que la France est un pays profondément catholique, pas chrétien. C'est-à-dire que les gens ne vont pas à la messe, mais ils sont catholiques, c'est-à-dire qu'ils sont très attachés à la hiérarchie, aux structures, etc. Et quand l'Église catholique a été éliminée, elle a été remplacée comme structure, c'est par le culte de la raison et par ce qui est devenu la laïcité que j'appelle le laïcisme. Et ce laïcisme est devenu extraordinairement intolérant. C'est le contraire de l'Amérique, avec ce qu'on appelle le premier amendement, où toute forme d'expression religieuse, politique est autorisée aussi longtemps que vous respectez la loi. Pour moi, la laïcité, c'est la liberté totale d'expression en respectant la loi. Malheureusement, le laïcisme est devenu une procédure d'exclusion pour tous ceux qui ne sont pas dans la norme et pour tous ceux qui sont différents. Et je suis pour la différence et le respect des lois. Pour moi, le citoyen, un mot sur l'identité. Je ne sais pas ce que c'est que l'identité. Tout le monde est pour l'identité. Personne ne serait capable de la définir. Personne. On ne peut pas la définir.
Quand vous dites que la France est catholique.
Oui, oui, dans sa structure. Bon. Et ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Bon. Un citoyen, c'est une personne qui respecte la loi. Et pour moi, la laïcité, elle est là.
Oui, mais on peut changer la loi, nous dit par exemple notre Premier ministre Manuel Valls. Il nous dit par exemple que sur le voile intégral, on entend parfois aussi parler du voile, il faudrait légiférer. Que pensez-vous d'une législation, de la législation tout d'abord existante sur le voile intégral?
C'est un mode d'exclusion. C'est un mode d'exclusion, c'est un mode de division de la société, c'est un jugement de valeur intolérant envers des personnes qui ne sont pas comme vous et qui ne pensent pas comme vous. C'est l'exclusion, alors que la laïcité, en revanche, devait permettre à chacun de vivre ensemble sous couvert de la loi.
Bon, vous avez quitté libéral, on vous découvre islamo-droitiste, Guy Sorman.
Chacun essaye de m'étiqueter, vous depuis un quart d'heure comme libéral, d'autres comme islamo-droitiste. Récemment, j'ai été traité de gauchiste parce que j'étais pour la tolérance envers la différence. Vous savez, j'ai horreur des idées générales. Je ne crois qu'aux témoignages personnels et aux histoires personnelles.
Ceux qui disent qu'en autorisant le voile intégral, par exemple, on ferait en quelque sorte le lit du salafisme, le lit d'une société qui serait de plus en plus morcelée. Est-ce que vous n'en avez pas peur, Guy Sorman? La situation est autre aux États-Unis, peut-être parce que les salafistes y sont infiniment moins nombreux. Est-ce qu'il n'y a pas un péril, ce péril-là, qui menacerait la France?
Il y a combien de salafistes en France?
Il n'y a pas de recensement officiel, statistiques religieuses.
La France est un pays qui pousse à une certaine joie de vivre et à l'athéisme très rapidement. Et les Français d'origine arabo-musulmane évoluent comme les Français. On le voit par exemple dans le nombre d'enfants que les femmes d'origine musulmane ont. Elles n'ont pas plus d'enfants que les Françaises. Et moi, comme je ne crois qu'aux anecdotes et aux petites histoires, il se trouve que, élu local à Boulogne-Billancourt, j'ai, depuis 20 ans, prononcé énormément de mariages. Bon, je fais des mariages, c'est comme ça, dans les mairies. Et j'ai mes petites statistiques personnelles, basées sur les noms, c'est rien d'autre. Je constate, basées sur les noms, que la moitié des femmes qui ont un nom arabo-musulman épousent des hommes qui n'ont pas un nom arabo-musulman. Donc, ce que l'on oublie, c'est que la France est métisse, et que ce métissage est en train de se poursuivre. Donc, au lieu de regarder, je veux dire, 200 femmes voilées, je préfère regarder le métissage. Et la France est métisse, je veux dire.
Et vous en félicitez dans votre livre, Guy Sorman, « J'aurais voulu être français », un livre publié chez Grasset, où vous expliquez comment on peut vivre entre deux cultures, et même entre plus de deux cultures, car effectivement, c'est une ode au métissage.